feu sacré. 5 jours passent. Cette nuit, les ongodes, ou bien les esprits, devront corroborer les dires de la guérisseuse. Même si les signes de ma désignation sont là, leurs voix sauront se faire entendre, ou leurs contours se manifester. Et alors seulement serai-je vraiment accepté. La date du rituel a été choisie en regard du cycle de la lune. Les préparatifs ont commencé. Offrandes, amulettes, protection et collier Toli. Toli, disque de protection en métal monté en pendentif. Chaque élément entre en jeu dans cette cérémonie, qui pourra tourner court si l'au-delà ne le voit pas de cet œil. Jusqu'à mon costume et mon masque, dont je découvre qu'il s'agit de ceux que Ortharianath cousait assise à l'entrée de sa yourte, lorsque je m'en revins de cet orage qui faillit me prendre la vie, à moins qu'il n'en ait annoncé un nouvel élan. Là encore, grand-mère chamane n'avait rien dit, mais son ouvrage traditionnel, brodé de symboles choisis, montre qu'elle savait. « Es-tu prêt ?» La question de mon Tushi, assistant répondant aux besoins du chaman pendant les rituels et cérémonies, m'arrache à la rêverie. Bizarrement, je ne ressens aucune appréhension, je me sens même confiant. Depuis des années, j'évolue parmi cette tribu. Mais pour la première fois, je crois que je vais enfin y entrer. Oui. Mon Tushi a pour mission de m'assister tout au long de la nuit, au sein de l'Ovo, cercle cérémoniel. Il devra me guider alors que j'aurai les yeux bandés ou battre du tambour pour soutenir mon voyage quand je n'en serai plus capable, emporté par la transe ou plutôt tombé à terre, inanimé, sous la force de la boue sur moi. Boue, descente de pouvoir sur soi. Viens, il est temps de te purifier avec la fumée du genévrier. Je me lève d'une des bottes de paille servant de siège près de ma yourte, qui est un peu isolée du campement. Comme pour me souhaiter bonne chance, Arzan, que Tsenek m'a offert après avoir vu l'éclair de trop près, est ni dans mon dos. Nous prenons le chemin de l'Ovo. Ce qui s'ensuit cette nuit-là demeure sous le sceau du secret. Et même si je le confiais, qui me croirait? Au lever du soleil, je ferai partie de la tribu confirmée comme petit-fils adoptif de Ortharianath et surtout comme son fils spirituel. Mes heures à ses côtés n'en seront que plus précieuses, me dévoilant chaque jour davantage l'ampleur de ses pratiques. « C'est la première fois que j'ai un enfant, » me chuchotera-t-elle en se balançant lentement, après plusieurs heures et danse, transe et vision entremêlées du parfum indicible de la stupeur, inspirée au-delà des frontières du possible. Réminiscence d'enfance. Cet univers-là s'est ouvert en moi auparavant, alors que j'étais encore enfant. J'ai commencé à entendre des voix à l'âge de 4 ans. Écoute en toi et tu deviendras grand. Une voix, le plus souvent. Tu es ton plus court chemin vers la lumière. J'ai 5 ans. La rivière s'écoule dans un bruissement éblouissant. Des éclats de soleil y scintillent en 1000 reflets. Tout est là. Je n'ai besoin de rien. Je respire doucement. Assis sur le sable, près du chemin de halage, je ne vois plus mon chien et me sens devenir haut. Je soupire, tandis que le courant me traverse. 5 ans. Mais quel âge ai-je vraiment? Bientôt 6 ans. Sur les bords de la Loire, père et mère se séparent. Sa maman n'est plus désirée. Munie d'un sac plastique, emplie à la hâte de vêtements, et d'un koala en pluche élimé, elle emmène son fils à Paris. Il dort chez un ami, hébergé dans l'entrée. Une nuit, qu'entre adultes, il décide d'aller boire dans un bar, il laisse l'enfant seul. Ça ne se fait pas, mais ils sont déjà partis. Il se réveille vers 2 heures du matin, rêvant d'étranges félins entremêlés. Ses yeux sont encore pleins de leur fourrure et de leurs dessins. Des tigres réunis en un tête-à-queue harmonieux, telle une tapisserie respirant d'un seul souffle. Voile de rêve gonflée par le vent des songes. Image mouvante et vivante. Il ne se sent pas comme d'habitude, se découvre abandonné. Il appelle personne. Vêtu de son pyjama violet, il enfile ses petites bottes jaunes et sort de l'appartement pour retrouver les grands. Il les imagine sur le palier ou au pire dans l'escalier. La porte d'entrée se referme derrière lui. Il descend, silence. Large porte vitrée donnant sur la rue sombre, déserte, sur la nuit. Les escaliers mènent au parc Montsouris. Il découvre ce monde froid et obscur. Sa mère est-elle partie pour toujours? Son père n'est-il pas déjà disparu à leur séparation? Demeurant hors de la ville où lui, dit-on, il reviendra un jour? L'heure tourne. La lune aussi. Il appelle « Maman, maman !» encore et plus fort. Il commence à monter les marches qui pointent vers les arbustes du square endormi. La panique le gagne, et pour la première fois, il crie le prénom de sa mère. « Seda !» Le concierge, qui l'a entendu depuis sa loge sur rue, vient le chercher et le garde jusqu'au retour des adultes. Fin de la confiance. Début des rêves peuplés d'animaux, puis de songes emplis de végétaux. Écoute la musique jouée par ta vie et joue bien. Oser être soi, c'est oser devenir cette petite voix, son scribe. Au lieu de courir devant le monde, danse avec lui et vis. 6 ans, un dimanche matin, une plume d'aigle rapportée du Mexique par sa mère lui parle. Un rayon de lumière traverse les voilages de la fenêtre pour venir révéler le ramage du rapace. Négliger la vision, c'est perdre son énergie. Lui être attentif, c'est demeurer nourri. Il ne comprend pas tout, mais il a rendez-vous avec lui-même, peut-être avec quelqu'un ou quelque chose de plus grand. Et cela, il le sent. Quelle que soit la vérité de ta parole, l'espace du silence sera toujours plus vaste. Ses yeux sont bleus. Le lendemain de la cérémonie dans l'OVO, je regarde le jour décliné, appuyé sur une barrique en dehors du campement, près d'un enclos où se reposent les chevaux. Tsenek a vu des traces de loups aux alentours. Ses rennes sont nerveux. On les entend renacler et souffler. Le soleil va bientôt se coucher. Les chiens sont répartis en 3 petites meutes. Les chiens de garde, avec les chevaux, ceux de berger auprès du troupeau et ceux des chasseurs au campement. Je m'approche du feu de camp et trouve matière à tabouret dans un bilot bien sec débité il y a longtemps. Avant de m'asseoir, j'y remarque un motif, annonciateur s'il en est, gravé au couteau, plein centre des cercles concentriques qui indiquent l'âge d'un arbre. Il figure une sorte de tige à 2 feuilles, à moins que ce ne soit des ailes d'un papillon. Quand le bruit d'un pas décidé me fait relever la tête. La jeune femme marche droit vers moi. C'est elle. Elle, dont j'ai longuement croisé le regard en attendant de parler à grand-mère, juste après l'éclair et le tonnerre. Elle se trouve à une trentaine de mètres, et ses bottes, dont les pointes avant sont relevées en leur extrémité, pour ne pas blesser l'esprit de la terre, martèlent le sol comme si elle n'avait pas une seconde à perdre. Je l'avais déjà remarquée pour sa beauté, mais à distance seulement. Au campement, je suis le plus souvent seule ou avec les chiens, et surtout avec Otarganath. J'ai noué peu de liens. Quelques-uns avec les passeurs nomades ou chasseurs que Tsenek connaît, tous des hommes. 10 mètres. La jeune femme ne ralentit pas, ce qui commence à m'alerter. Je me lève. Elle s'arrête à 2 mètres de moi. Elle porte des vêtements joliment anciens, brodés de motifs colorés, sur fond de soie marine, délavée par endroits. Elle est plus que belle, et me semble immense. Elle ne dit rien. Son visage est complètement immobile. Pommettes saillantes, rougies par l'altitude, cheveux noirs et front clair, vernis par le soleil. Sans hésitation, elle cherche mon regard et d'emblée me scrute. Ses yeux ne clignent même pas. Ils sont d'un bleu profond, bridé de perfection. Je prends conscience de ma respiration accélérée et de mes sourcils froncés. Sur une expiration profonde, je me détends. Vise droit dans ses pupilles. Le temps devient pressant et son regard insistant. Elle fait un pas en avant et s'expose entre deux ombres d'arbres dans un dernier rayon du jour. Le couchant colore sa peau d'une lueur abricot. Elle se tient droite comme un arc bandé. Alignement miroir entre nous deux. Déclic. Ses yeux brillent et ses lèvres s'entrouvrent. Elle inspire par la bouche, puis sourit. Moi aussi. Quand soudain, elle se détourne et disparaît dans l'obscurité. La foudre a encore frappé. Un râle profond. Cet après-midi, le message attendu m'est arrivé. Je dois bientôt rentrer à Paris pour signer des papiers importants. Il n'y a pas à hésiter, mais mon plexus l'entend différemment. Depuis hier soir, je ne songe même plus à m'éloigner du campement, n'ai qu'une envie, la recroiser, en savoir plus sur elle, connaître ses nuits et ses jours. Je m'en ouvre à Otarganath. Elle ne me renseigne en rien sur la jeune femme. Elle me dit que les choses viennent quand elles le doivent, parfois quand elles peuvent. Je lui parle de mon retour en France. Elle me répond du tac au tac que ça n'est pas prévu, que je dois rester afin de poursuivre son enseignement. Comment cela, pas prévu? Tu ne devrais pas perdre du temps à penser à rentrer, ou plutôt à repartir. Pas pour le moment. Elle clôt la discussion en me disant d'interroger moi-même les esprits. Elle me sert une tasse d'une infusion à peine tiède, plus amère que jamais, puis retourne à sa broderie et entonne un chant lancinant. Après quelques minutes, à l'écouter et à laisser décanter sa réponse, j'avale le breuvage d'une traite et m'apprête à sortir de la yourte. Une fois debout, j'ai un haut-le-cœur assez fort pour me déstabiliser. Mais l'ange inattendu de pression, de torpeur et de nausée. Je sors en titubant. En me retournant pour fermer la porte, j'aperçois grand-mère en train d'observer le fond de ma tasse, comme si elle déchiffrait un parchemin. Elle s'arrête de fredonner, puis retourne la tasse sur un plateau argenté, tout en poussant un râle profond. Mon malaise disparaît aussitôt.